Chapitre 23. Blottis derrière le banc de pierre côté est, en haut de la face, nous nous accordâmes 5 bonnes minutes d'air anglais réglé au débit maximal. L'afflux d'oxygène me fit du bien, et je cessai de tousser et d'expectorer pendant un moment. Enfin, nous posâmes nos masques, et la discussion commença.
« Je n'arrive pas à croire que Jean-Claude soit parti, »
dit Reggie. Nous nous penchâmes plus près pour l'entendre, quoique le vent parût se calmer, comme si l'Everest nous offrait un bref moment de répit pour honorer le souvenir de notre ami. Malgré cette accalmie, plus personne ne dit rien pendant 1 minute ou 2.
L'heure de la décision est arrivée, déclara enfin le diacre.
Je ne comprenais pas.
Quelle décision? Une douzaine d'Allemands sont morts, non Siegel. Plus rien ne nous empêche de redescendre de la montagne, de faire une halte à ce qui reste du camp de base, puis de nous tirer d'ici, de rentrer à Darjeeling.
C'était un long discours pour un homme ayant la gorge si irritée, et j'étais désolé d'infliger ma voix éraillée à mes amis.
À mon avis, Siegel est venu en force cette année, fit remarquer le diacre. 12 hommes sont peut-être morts, mais ça m'étonnerait qu'un type aussi rusé que lui n'en ait pas laissé 1 ou 2 de plus sur le glacier, dans l'auge ou au camp de base, pour être sûr qu'aucun de nous n'en sortirait vivant.
« Nous devons faire parvenir ces photos et les négatifs à Londres, » dit Reggie. « C'est la priorité, la raison pour laquelle Jean-Claude et les Sherpas sont morts, même si ces derniers ne le savaient pas. »
Le diacre hocha la tête 1 fois, 2 fois, puis la secoua. Ensuite, il leva les yeux et regarda au-dessus de ma tête vers l'ouest.
« Je veux gravir cette montagne, » dit-il, « mais je n'ai jamais abandonné un alpiniste en détresse, et je ne vais pas commencer aujourd'hui, Jake. » J'en fus sidéré.
« Si vous voulez commencer à grimper, je suis prêt à venir avec vous, »
mentis-je. J'avais l'impression que ce fichu trilobite que j'avais recraché m'avait grignoté de l'intérieur, comme les goraks avaient vidé le corps de Mallory.
« Non, Monsieur Perry, vous n'êtes pas en état de l'accompagner, » intervint Passang.
Je lui jetai un regard noir. De quel droit me priverait-il du rêve de ma vie ?«
De son droit de médecin, » répondit la partie suffisamment oxygénée de mon cerveau. Le sommet devrait se trouver à 2 heures d'escalade d'ici, peut-être 2 heures et demie en progressant lentement dans la neige profonde de la pyramide, dit le diacre. Mais nous disposons d'assez d'oxygène pour l'aller et le retour.
Non,
dis-je de ma voix rauque.
Nous en avons à peine 1 bouteille pleine chacun.
Vous n'avez pas remarqué les cylindres que portaient Siegel et les Allemands que nous avons tués? C'étaient nos appareils, les appareils de Jean-Claude. Ils ont dû trouver notre cache au camp de base. Ils n'ont probablement pas utilisé plus de 2 bouteilles chacun pour grimper jusqu'à l'arête nord-est. Ce qui nous laisse au moins 8 bonbonnes supplémentaires. Pleines. Je compris alors que nous avions une chance unique de pouvoir tenter le sommet, une bien meilleure chance que Mallory et Irvine lors de leur dernier jour. Ils avaient dû grimper depuis le camp 6 à 8230 mètres d'altitude avec 2 ou 3 bouteilles chacun. Et leurs appareils étaient bien plus lourds que les nôtres. Nous avions déjà franchi le 2e ressaut et n'étions plus qu'à 2 heures du sommet, à seulement 250 mètres verticaux. En plus des appareils à oxygène supplémentaire, nous disposions de la grande tente de Reggie, dont nous pourrions nous servir si le mauvais temps nous contraignait à bivouaquer. Pour toutes les expéditions précédentes, un bivouac à cette altitude aurait signifié une mort certaine. Pour la nôtre, avec la tente de Reggie, nos vêtements de duvet et nos réserves d'oxygène, ce serait seulement une première. Une des nombreuses premières pour l'expédition Deacon, Bromley, Montfort, Passang, Perry, Clairoux. La pensée de J.C. et de sa détermination joyeuse à gravir cette satanée montagne fit geler des larmes sur mes cils.
« Je veux y aller, »
dis-je.
« Nous irons tous. Nous poserons le pied au sommet. » En même temps.
Non, dit Passang. Monsieur Perry, excusez-moi, monsieur. Vous n'avez pas perdu beaucoup de sang lorsque vous avez expectoré la muqueuse gelée. Mais si vous poursuivez l'ascension, si vous restez ne serait-ce que quelques heures de plus à cette altitude, vous risquez l'embolie pulmonaire, voire pire. Une autre nuit ici vous serait sûrement fatale.
Je prends le risque,
dis-je de ma voix grinçante. Mais je sentais déjà la léthargie tenter de me clouer au sol.
Pouvons-nous atteindre le sommet et être de retour avant la nuit ?
Demanda Reggie.
Ou faudrait-il dresser ma tente dans un endroit exposé, comme à côté du champignon ?
Le diacre inspira et secoua la tête.
Je compte y aller seul. Et je ne compte pas revenir.
Je tentais de crier, mais ma gorge me faisait trop mal. À la place, je pris une bouffée d'air anglais.
Vous comptez commettre un suicide là-haut juste pour grimper cette montagne ?
S'écria Reggie.
Vous êtes un lâche, quoi que m'en ait dit mon cousin Charles, et malgré toutes vos médailles rutilantes.
Le diacre sourit. Je me souviens d'avoir pensé, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je n'arrêtais pas d'entendre et de réentendre le sifflement de la bouteille d'oxygène de JC après que la balle avait transpercé mon ami et le cylindre de métal. J'avais eu l'impression que c'était l'âme de Jean-Claude qui sortait de son corps.
« Si monter au sommet et ne pas en redescendre n'est pas du suicide, qu'est-ce donc ?»
demanda Reggie au diacre. Elle semblait prête à le frapper.
« Vous vous souvenez de la visite de Ken dans le Sikkim ?» demanda le diacre. « Kateo Wings !» m'exclamai-je. « Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?»
Oui. Ken vit au Népal, dans une ferme située au pied de l'approche sud de l'Everest, dans la vallée de Khumbu, depuis qu'il a décidé de se retirer du monde après la guerre. Il est toujours poète, sauf qu'il ne montre plus ses écrits. Et il est toujours alpiniste, même si plus personne n'entend parler de ses escalades.
Êtes-vous en train de nous dire que votre copain Ken Wings a gravi l'Everest et qu'il vous attend là-haut avec un dirigeable ou je ne sais quel engin ?
Demanda Reggie avec humeur. Le diacre sourit encore.
Rien d'aussi spectaculaire, Reggie. Mais Ken a reconnu les approches, les cols et les arêtes menant à l'Everest par l'autre côté, par le sud.
Et il m'a promis que ses amis Sherpa et lui laisseraient des piquets pour baliser la voie et des échelles sur les crevasses jusqu'à la cascade de glace du glacier du Khumbu. D'après lui, c'est sans doute le passage le plus dangereux et tout près du camp de base côté sud.
Il n'y a pas de camp de base du côté sud,
coassai-je, et ma voix rappela le grattement de longs ongles sur un tableau noir.
Maintenant, il y en a un.
Ken n'a pas fait que de l'escalade la semaine dernière. Il a aussi installé des cordes fixes et laissé des tentes sur le col sud à mon intention.
Il regarda Reggie. À notre intention. Le col sud ?
Répétai-je, tressaillant de douleur. J'avais entendu et pensé col nord tant de milliers de fois ces 9 derniers mois qu'il me semblait presque impossible qu'il y ait un col sud de l'Everest ou qu'il serve à quoi que ce soit.
Les étrangers sont interdits de séjour au Népal,
dit Reggie.
On vous jetterait en prison, Richard.
Le diacre secoua encore la tête.
Owings a des amis.
Il emploie des centaines de personnes dans sa ferme de la vallée du Khumbu. Il est respecté. Il s'est converti au bouddhisme en 1919, une vraie conversion. Pas comme moi qui médite le matin et tue des Allemands l'après-midi. Et beaucoup, au Népal, le considèrent comme un saint homme. Il me trouvera un endroit où habiter. Reggie le dévisagea pendant un long moment de silence.
Pourquoi voulez-vous vous éloigner de tout, Richard ? Abandonnez tout ce que vous connaissez.
Quand il finit par répondre, ce fut d'une voix chargée d'émotion.
J'ai le sentiment, comme vous l'avez si joliment dit un jour, Reggie, que le monde actuel me pèse. Et pas forcément dans un sens bouddhique.
La meilleure partie de moi n'est jamais revenue de la guerre. Reggie se frotta la joue. Puis leva les yeux vers la pyramide sommitale blanche qui étincelait derrière la tête du diacre.
J'ai rempli mon devoir de Bromley et de Britannique depuis que je suis arrivé en Inde, à l'âge de 9 ans,
dit-elle.
À 14, j'ai pris la tête de la plantation et je l'ai dirigée depuis lors. Le revenu que nous en tirons assure le train de vie de la maison Bromley en Angleterre. À 26 ans, j'ai épousé un homme âgé que je n'aimais pas, pour obtenir un apport de capitaux nécessaire à la plantation.
Lord Montfort est mort avant que j'aie vraiment pu le connaître. Et il n'a jamais fait l'effort d'essayer de me connaître. Je suis lasse de faire mon devoir.
Que voulez-vous dire, Reggie ?
Demandai-je. Je veux dire que j'adorerais poser le pied au sommet de l'Everest et qu'il ne me déplairait pas de voir, pendant quelques années, le Népal interdit.
Dans ce cas, je grimperai avec vous, annonça Passang. Elle lui posa la main sur le bras.
Non, mon ami, cette fois vous ne venez pas avec moi. Jake doit retourner au camp de base puis à Darjeeling. Nous devons faire parvenir ces photos aux bonnes personnes. Je ne vous ai jamais ordonné de faire quoi que ce soit, mon très cher Passang. Mais je vous supplie de ramener Jake en lieu sûr et de retourner à la plantation.
Passang la regarda une seconde comme s'il était sur le point d'argumenter, puis se contenta d'incliner la tête. Ses yeux noirs paraissaient humides, mais c'était peut-être à cause du vent.
Vous savez où je range mon testament,
lui disait-elle quand j'ai eu fini de prendre une nouvelle bouffée d'air anglais.
Vous connaissez la combinaison du coffre. Vous découvrirez que je vous ai légué la plantation, à vous et à votre famille. Il y a une clause dans le testament, un codicille, précisant que si je meurs ou si je disparais, un tiers des profits de la plantation devront continuer à être versés à Lady Bromley dans le Lincolnshire, jusqu'à sa mort. Ensuite, tous les profits seront pour vous. Vous pourrez en faire ce que bon vous semblera, mon cher Passang.
Il hocha de nouveau la tête sans lever les yeux vers elle.
« Attendez, » dit le diacre. « Personne ne tentera d'atteindre le sommet cet après-midi. Encore moins d'effectuer la traversée jusqu'à l'endroit où Ken aura laissé des cordes fixes, des tentes et des vivres, tant que nous ne sommes pas absolument sûrs que Jake puisse redescendre, sans danger, avec le seul Passang.
« Pas si vite, »
coassai-je.
« Nous pouvons passer la nuit dans la grande tente de Reggie près du champignon et décider de tout ça demain matin. Je serai sûrement en pleine forme à ce moment-là. Nous tenterons le sommet tous ensemble et rien ne vous empêchera de suivre cette folle idée de passer au Népal si ça vous chante. Tous les deux, Passang et moi redescendrons par ici. »
Passang secouait la tête. Il s'exprima d'un ton doux mais ferme.
« Non, Monsieur Perry. Je suis désolé, mais vous devez redescendre aujourd'hui. »
Il se tourna vers le diacre et Reggie.
Monsieur Perry peut marcher presque sans assistance. Je pense qu'il en sera capable encore un certain temps, surtout en descente. Quand il n'y arrivera plus, je le porterai. Dès que sa respiration s'améliorera, je l'escorterai au monastère du Rongbok, d'où j'organiserai notre retour à Darjeeling.
Hey, je n'ai pas mon mot à dire.
Manifestement pas. Nous nous levâmes tous les quatre. Le vent s'était calmé, mais le nuage lenticulaire coiffait de nouveau le sommet de l'Everest. Le diacre sortit son gros pistolet Very et tira une fusée très haut dans le ciel en direction du sommet. Une fusée blanche dont l'éclat phosphorescent était beaucoup plus vif que celui de nos fusées habituelles. Blanc, vert et rouge. Je me souvenais de ce que Kate Owings avait dit au diacre dans le Sikkim 10 000 ans plus tôt.
« Je crois, »
déclara ce dernier d'une voix où la tristesse le disputait à une sorte d'exaltation lasse,
« que nous... »
Il regarda Reggie qui hocha la tête.
« Que nous pouvons atteindre la cime, traverser la ligne de crête entre les deux sommets,
descendre en rappel le grand ressaut dont Ken m'a parlé et rejoindre l'endroit où les Sherpas et lui ont installé des cordes fixes sur l'arête de l'approche sud vers avant minuit. Si nous ne pouvons pas descendre avec nos torches et nos lampes frontales, nous bivouaquerons dans la grande tente de Reggie, quelque part par-delà le sommet sud, et laisserons la tente sur place avant de reprendre la descente le lendemain matin.
C'est de la folie,
dis-je.
La première ascension de l'Everest, à notre connaissance. Et vous voulez faire une fichue traversée pour repartir vers le sud? De la folie pure!
Le diacre et Reggie se contentèrent de me sourire.
Le monde ne tournait plus rond.
Une faveur, dit le diacre. Gardez votre corde d'assurage et les rouleaux supplémentaires, et celui de JC également. Mais laissez les 30 mètres de corde descendant du deuxième ressaut. Si nous sommes contraints de faire demi-tour, nous en aurons besoin.
D'accord.
Je hochai la tête, ahuri. Le diacre sortit d'une poche intérieure un papier plié et me dit
« Voici le nom et l'adresse de l'homme à qui vous devez donner ces photos à Londres, Jake. Je compte sur vous pour les lui remettre en main propre. À personne d'autre. Pour l'amour du ciel, ne les perdez pas. »
Je rangeai le papier dans la poche fermée par un bouton de la chemise de laine que je portais sous mes autres épaisseurs de vêtements. Je ne le dépliais pas et ne songeais même pas à regarder le nom, tant j'étais sonné et déprimé à la pensée que j'allais devoir descendre et non pas monter, alors que j'avais escaladé tout seul le deuxième ressaut. Mais je crois que cet accès de dépression venait du terrible sentiment de perte que m'inspirait la mort brutale de Jean-Claude. La vérité commençait seulement à s'imposer dans mon esprit et mon âme. Jamais plus je ne verrai mon ami de Chamonix, et jamais plus je n'entendrai son rire.
Passang, dit Reggie, si pour une raison ou pour une autre, c'est vous qui vous rendez à Londres à la place de Jake pour remettre le jeu de photos, vous savez qui vous devez voir et où aller, n'est-ce pas?
Oui, madame.
Le diacre me tendit la main. Je la serrai, ne réussissant toujours pas à croire que nous nous quittions.
« Restez en vie !»
m'entendis-je lui dire. « J'y compte bien. N'oubliez pas que mon destin est de mourir sur la face nord de l'Eiger, pas sur l'Everest. Et vous, Jake, remettez-vous vite. »
Puis Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort m'embrassa,
sur la bouche,
fort.
Elle recula d'un pas pour se placer à côté du diacre, et je contemplai une dernière fois ses incomparables yeux bleus outre-mer.
N'oubliez pas de remettre vos lunettes, lui dis-je bêtement.
Peu après, j'eus mardant la main, Passang et moi glissâmes le long de la corde que nous avions si obligeamment laissée à Bruno Siegel et atterrîmes dans la neige au pied du deuxième ressaut. Je vis le diacre hisser la longue corde et en un clin d'œil, il avait disparu.
Ils étaient partis.
Remontant sans doute l'extrémité occidentale de l'arête nord-est pour rejoindre les champs de neige menant à la pyramide sommitale. Et moi, je descendais, marchant sur l'arête en lame de couteau vers les corps des Allemands gisant dans la neige, je me mis à pleurer comme un bébé. Passang me donna une petite tape dans le dos et me serra l'épaule.
« C'est le contre-coup de votre suffocation, » me dit-il.
« Non. »
Je n'avais pas entendu le diacre donner des ordres ou des conseils au docteur Passang, mais une fois près des quatre cadavres, il parut savoir exactement quoi faire. J'avoue que je me contentais de le regarder, appuyé contre mon piolet, en tentant de respirer avec ma gorge lacérée. Il commença par fouiller chacun, récupérant certains documents, et surtout les armes qu'il portait. L'un avait un pistolet mitrailleur Schmeisser sous son anorak, et un autre le revolver Webley du diacre que Passang me tendit. Je le glissai dans la poche de mon duvet, sous ma veste Shackleton. Passang leur retira à chacun son appareil à oxygène, avant de fouiller leur sac à dos et leur besace, prenant tout ce qui aurait pu nous être utile, ou qui aurait pu avoir de l'importance en termes de renseignement, et le rangeant dans son propre sac. Il remplit un des fourre-tout de toile et me le passa.
Nous allons enfiler les cadres métalliques des appareils à oxygène, me dit-il, et laisser les sacs à dos plus lourds. Nous porterons nos autres affaires dans ces besaces.
Mon esprit était tellement embrumé que j'eus du mal à faire le calcul, mais j'étais presque sûr que 3 bouteilles d'oxygène pleines nous suffiraient pour descendre au camp de base. Ou au moins jusqu'à l'un des camps inférieurs où nous avions caché certains des nouveaux appareils de Jean-Claude. Je doutais que les Allemands les aient tous trouvés.
« Vous êtes d'accord avec le plan, Monsieur Perry ?»
Je hochai la tête,
incapable de parler. Avant que nous repartions, Passang sortit un canif, coupa les cordes reliant les quatre hommes morts et les traîna un par un jusqu'au bord sud de l'arête, d'où il les précipita. Je ressentis une forte émotion au milieu de mon engourdissement général, et je n'aurais su dire si c'était de l'indignation à l'idée que les Allemands allaient souiller le glacier où devait se trouver la dépouille de J.C., ou la joie brute et impie de savoir qu'ils avaient payé pour le crime de Siegel. Je compris seulement, beaucoup plus tard, la nécessité de se débarrasser des cadavres. En 1925, nous estimions tous que d'autres expéditions ne tarderaient pas, peut-être dès 1926. Laisser une piste pavée d'Allemands morts, a fortiori tués avec un fusil de sniper anglais, aurait pu donner lieu à d'embarrassants câbles diplomatiques entre Berlin et Whitehall. Et il n'aurait pas été judicieux de pousser les cadavres du côté de la face nord. N'y avions-nous pas retrouvé les corps de Mallory et d'Irvine par hasard? Mieux valait que ces Allemands ne soient jamais retrouvés. En regardant Passang se débarrasser des corps, je me rendis compte d'une chose importante. Cette muqueuse gelée qui m'avait rendu malade pendant des jours, puis sa spectaculaire expectoration m'avait bien plus affaibli que je n'avais voulu l'admettre. Debout sur l'arête, alors que Passang faisait le ménage, je sentis l'énergie qui, grâce à une poussée d'adrénaline, m'avait propulsé en haut du deuxième ressaut, refluer comme de l'eau dans un tuyau d'évacuation. Le docteur Passang avait raison. Si j'avais essayé de pousser jusqu'au sommet, ou même passer une nuit de plus à cette altitude, je serais mort. Cette vérité m'apparut alors que je me tenais sur l'arête nord-est, tout près du sommet, mais désormais prêt à redescendre. Je voulais seulement survivre et faire mon devoir pour Reggie et le diacre, pour Percy et Kurt Meyer, et aussi pour nos amis Sherpa qui étaient morts, et pour Jean-Claude. Surtout pour Jean-Claude. Descendre, survivre et transmettre ces photos aux autorités britanniques qui en avaient besoin. Quand nous quittâmes la ligne de crête par-delà le champignon, j'étais certain que je n'aurais pas la force de franchir l'extension de granit incrusté dans la face nord. Mais à observer Passang, l'obstacle paraissait facile. Le fait de savoir où se trouvaient les saillies et les prises de l'autre côté changeait tout. Il m'assura et je passai sans problème, ce qui ne m'empêcha pas de glisser à la réception. Il dut me hisser sur la saillie comme si j'étais un ballot de linge sale. J'étais trop fatigué et abattu pour ressentir la moindre gêne. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers le sommet, et à un moment, je crus voir deux petits points avancer l'un à côté de l'autre en haut de la pyramide enneigée. Je n'eus pas la force de sortir mes jumelles de mon sac de toile. Depuis lors, je me suis toujours demandé si j'aurais pu distinguer Reggie et le diacre, si c'était vraiment eux qui cheminaient sur cette ultime arête sommitale. Pourvu en oxygène grâce aux bouteilles que les Allemands avaient dû trouver au camp de base ou à l'est du camp 5, là où nous les avions cachés, Passang et moi continuâmes notre descente dans le soleil de l'après-midi. Ils ne me soutenaient pas à proprement parler, mais la plupart du temps nous marchâmes côte à côte et son bras constituait un appui sûr dans mon hébétude croissante. Il me guida ainsi pendant toute la traversée le long de l'arête, puis se rappela précisément par où descendre à travers les fissures de sortie pour rejoindre la face inférieure et notre pitoyable camp 6, où l'unique tente était toujours debout et toujours penchée. Manifestement, les Allemands ne l'avaient pas vu pendant leur ascension. Il restait quelques provisions, du chocolat, une boîte de sardines, une thermos d'eau que nous n'avions pas emportée avec nous, que nous rangeâmes dans les fourre-tout déjà débordants. Ce fut à ce camp 6, juste avant que le ciel ne se couvre et que la neige ne se remette à tomber, que je sortis mes jumelles et les braquai sur le sommet de l'Everest. Assis sur le bloc de roche au-dessus de la tente, j'avais posé les coudes sur mes genoux et quelques secondes avant que les nuages ne me bouchent la vue, je vis une chose vert et or battre, juste à l'endroit où devait se trouver la pointe enneigée de l'arête sommitale. Vert et or. Le vent forcissait là-haut et le temps se dégradait comme ici, au camp 6, à seulement 8200 mètres d'altitude. Mais le diacre et Reggie n'auraient sûrement pas planté la tente pile au sommet. Ça aurait été suicidaire. À moins qu'ils n'aient eu l'intention de se suicider ensemble là-haut, pelotonnés l'un contre l'autre, peut-être, sous leur sac de couchage ou bien enlacés, comme les retrouverait la prochaine expédition qui atteindrait le sommet. Avait-il été amant pendant tout ce voyage, me demandais-je avec une douleur très réelle au cœur et au ventre. S'était-il fait le serment dément de mourir ensemble au sommet? Je me souvins alors qu'il n'y avait pas de doré sur la tente de Reggie. C'était le drapeau portant les armoiries des Bromley, aigle et griffon se battant pour une lance, qui était vert et or. Le drapeau de soie apporté par Percy sur la montagne et que Reggie avait pris dans la poche du mort. La bannière de Percival et de Reggie au sommet. Mais ce que j'avais vu pendant cette fraction de seconde m'avait paru flotter à 1 mètre ou 2 du sol de neige. Comment avait-il pu? Puis je me souvins. Quand nous nous étions séparés, Reggie avait emporté le piolet de JC, le nouant à son sac à dos avec les 2 courts piolets-marteaux. Je souris, et de ma voix toujours rauque, décrivis à Passang ce que je venais de voir. Il m'emprunta les jumelles pour regarder à son tour, mais les nuages s'étaient épaissis et je ne crois pas qu'il ait pu distinguer la même chose que moi. L'image éphémère de ce tissu vert et or battant à l'horizontale dans le vent du sommet ne me quitterait plus jamais de ma vie. J'avais du mal à respirer à présent, et quand j'eus remis mon appareil à oxygène sur mes épaules, je restais à côté de ce bloc de roche pendant un long moment, plié en deux par une quinte de toux. Je m'aperçus que j'avais décoré la pierre noire de crachats de sang rouge vif.
Est-ce que j'ai encore un truc gelé dans la gorge?
Demandai-je à Passang une fois passé une deuxième quinte. Il me fit ouvrir la bouche et en éclaira l'intérieur avec l'une des petites lampes frontales.
« Non, monsieur Perry, » répondit-il. « Plus d'obstruction, mais la paroi de votre gorge est tellement irritée et enflée qu'elle risque de boucher complètement vos voies respiratoires si nous ne redescendons pas très vite à basse altitude. »«
Et dans ce cas, je mourrai. »
Pour preuve de ma lassitude, la réponse à cette question ne m'intéressait pas tant que ça.
« Non, monsieur Perry. Si ça arrive, je pratiquerai une simple trachéotomie. Ici. »
Son doigt ganté se posa près du creux de ma gorge.
« Nous avons plein de tubes de verre et de tuyaux de caoutchouc sur les appareils à oxygène. »
« Je pratiquerai une simple trachéotomie. » La portée de cette phrase ne me frappa que plus tard.
« Et si ça ne marche pas, docteur Passang ?»
Ma voix rauque et affligée ressemblait beaucoup à une lamentation.
Dans ce cas, pour éviter le collapsus pulmonaire, je ferai un petit trou ici, pour permettre à votre poumon de se regonfler et à vous de respirer, dit-il en plaçant le doigt du côté gauche de ma poitrine. Comme je vous le disais, les différents tuyaux et valves dont nous disposons feront très bien l'affaire. Le seul problème serait de les stériliser, avec une eau qui boue à si basse température.
Je baissai les yeux sur ma poitrine. Un trou ici avec un morceau de tuyau en caoutchouc d'un des appareils à oxygène pour regonfler mon poumon effondré. Je remontai l'appareil plus haut sur mon dos, resserrai les lanières, préparai le masque facial et déclarai de la voix la plus ferme que je pus.
« J'ai assez de force pour descendre. »